Édouard Chouret, Les grands initiés, livre 8, Jésus, chapitre 6, suite. Jésus a traversé la nuit et l'angoisse de Gethsémani. D'avance, avec une effrayante lucidité, il a vu se rétrécir le cycle infernal qui va l'étreindre. Dans la terreur de cette situation, dans l'horrible attente, au moment d'être saisi par ses ennemis, il a frémi. Un instant, son âme a reculé devant les tortures qui l'attendent. Une sueur de sang a perlé sur son front, puis la prière l'a raffermi. Des rumeurs de voix confuses, des lueurs de torches sous les sombres oliviers, un cliquetis d'armes, c'est la troupe des soldats du Sanhédrin. Judas, qui les conduit, embrasse son maître afin qu'on reconnaisse le prophète. Jésus lui rend son baiser avec une ineffable pitié et lui dit « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici ?» L'effet de cette douceur, de ce baiser fraternel donné en échange de la plus basse trahison, sera-t-elle sur cette âme cependant si dure qu'un instant après, Judas, saisi de remords et d'horreur devant lui-même, ira se suicider. De leurs mains rudes, les sergents ont saisi le rabbi galiléen. Après une courte résistance, les disciples épouvantés se sont enfuis, comme une poignée de roseaux dispersés par le vent. Seuls, Jean et Pierre se tiennent à proximité et suivront le maître au tribunal, le cœur brisé et l'âme rivée à son destin. Mais Jésus a repris son calme. À partir de ce moment, pas une protestation, pas une plainte ne sortira de sa bouche. Le Sanhédrin s'est réuni à la hâte en séance plénière. Au milieu de la nuit, on y mène Jésus, car le tribunal veut en finir prestement avec le dangereux prophète. Les sacrificateurs, les prêtres en tunique pourpre, jaune, violette, leur turban sur la tête, sont solennellement assis en demi-lune. Au milieu d'eux, sur un siège plus élevé, trône Caïphe, le grand pontife, coiffé de la mikva. À chaque extrémité du demi-cercle, sur deux petites tribunes surmontées d'une table, se tiennent les deux greffiers, l'un pour l'acquittement, l'autre pour la condamnation. Advocatus Dei, advocatus Diaboli. Jésus, impassible, est debout au centre, dans sa robe blanche d'Essénien. Des officiers de justice, armés de courroies et de cordes, l'entourent bras nus, le poing sur la hanche et le regard mauvais. Il n'y a que des témoins à charge, pas un défenseur. Le pontife, le juge suprême, est l'accusateur principal. Le procès, soi-disant une mesure de salut public contre un crime de lèse-religion, en réalité la vengeance préventive d'un sacerdoce inquiet qui se sent menacé dans son pouvoir. Caïphe se lève et accuse Jésus d'être un séducteur du peuple, un mésite. Quelques témoins ramassés au hasard dans la foule font leur déposition, mais ils se contredisent. Enfin, l'un d'eux rapporte ce mot considéré comme un blasphème et que le Nazaréen avait jeté plus d'une fois à la face des pharisiens sous le portique de Salomon. « Je puis détruire le temple et le relever en 3 jours. » Jésus se tait. « Tu ne réponds pas, dit le grand prêtre. Jésus, qui sait qu'il sera condamné et ne veut pas prodiguer son verbe inutilement, garde le silence. mais ce mot même prouvé ne suffirait pas à motiver une condamnation capitale. Il faut un aveu plus grave. Pour le soutirer à l'accusé, l'habile sadducéen, Caïphe, lui adresse une question d'honneur, la question vitale de sa mission. Car la plus grande habileté consiste souvent à aller droit au fait essentiel. Si tu es le Messie, dis-le-nous. Jésus répond d'abord d'une manière évasive qui prouve qu'il n'est pas dupe du stratagème. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, mais si je vous le demande, vous ne me répondrez pas. Caïphe, n'ayant pas réussi avec sa ruse de juge d'instruction, use de son droit de grand pontife et reprend avec solennité « Je te conjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Ainsi interpellé, sommé de se dédire ou d'affirmer sa mission devant le plus haut représentant de la religion d'Israël, Jésus n'hésite plus. Il répond tranquillement « Tu l'as dit, mais je vous dis qu'à partir de maintenant, vous verrez le Fils de Dieu à la droite de la force et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. En s'exprimant ainsi dans la langue prophétique de Daniel et du livre d'Enoch, l'initié Essénien, Yehoshua, ne parle pas à Caïphe comme un individu. Il sait que le sadducéen agnostique est incapable de le comprendre. Il parle à tous les pontifes futurs, à tous les sacerdoces de la terre, et leur dit « Après ma mission scellée par ma mort, le règne de la loi religieuse, sans explication, est terminé en principe et en fait. Les mystères seront révélés, et l'homme verra le divin à travers l'humain. Les religions et les cultes, qui ne seront pas démontrés et vivifiés l'un par l'autre, seront sans autorité. Voilà, selon l'ésotérisme des prophètes et des Esséniens, le sens du Fils assis à la droite du Père. Ainsi comprise, la réponse de Jésus au grand prêtre de Jérusalem contient le testament intellectuel et scientifique du Christ aux autorités religieuses de la terre, comme l'institution de la scène contient son testament d'amour et d'initiation aux apôtres et aux hommes. Par-dessus la tête de Caïphe, Jésus a parlé au monde. Mais le sadducéen qui a obtenu ce qu'il voulait ne l'écoute déjà plus. Déchirant sa robe de lin fin, il s'écrie. Il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin de témoins? Vous avez entendu son blasphème. Que vous en semble? Un murmure unanime et lugubre du Sanhédrin répond. Il a mérité la mort. Aussitôt, l'injure vile et l'outrage brutal des inférieurs répondent à la condamnation d'en haut. Les sergents lui crachent, le frappent au visage et lui crient « Prophète, devine qui t'a frappé !» Sous ce débordement de haine basse et féroce, le sublime et pâle visage du grand souffrant reprend son immobilité marmoréenne et visionnaire. « Il y a, dit-on, des statues qui pleurent. Il y a aussi des douleurs sans larmes et des prières muettes de victimes qui terrifient les bourreaux et les poursuivent pour le reste de leur vie. Mais tout n'est pas fini. Le Sanhédrin peut prononcer la peine de mort. Pour l'exécuter, il faut le bras séculier et l'approbation de l'autorité romaine. L'entretien avec Pilate, rapporté en détail par Jean, n'est pas moins remarquable que celui avec Caïphe. Ce dialogue curieux entre le Christ et le gouverneur romain, où les interjections violentes des prêtres juifs et les cris d'une populace fanatisée font la partie des chœurs dans la tragédie antique, à la persuasion de la grande vérité dramatique. Car il met à nu l'âme des personnages. Il montre le choc des trois puissances en jeu. Le césarisme romain, le judaïsme étroit et la religion universelle de l'esprit représentée par le Christ. Pilate, très indifférent à cette querelle religieuse, mais très ennuyé de l'affaire, parce qu'il craint que la mort de Jésus n'entraîne un soulèvement populaire, l'interroge avec précaution et lui tend une échelle de sauvetage, espérant qu'il en profitera. Es-tu le roi des Juifs ? Mon règne n'est pas de ce monde. Tu es donc roi ? Oui, je suis né pour cela, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate ne comprend pas plus cette affirmation de la royauté spirituelle de Jésus que Caïphe n'a compris son testament religieux. Qu'est-ce que la vérité ? Dit-il en haussant les épaules. Et cette réponse du chevalier romain sceptique révèle l'état d'âme de la société païenne d'alors, comme de toute société en décadence. Mais ne voyant d'ailleurs dans l'accusé qu'un rêveur innocent, il ajoute « Je ne trouve aucun crime en lui ». Et il propose aux Juifs de le relâcher. Mais la populace, instiguée par les prêtres, vocifère « Relâche-nous Barabbas ». Alors Pilate, qui déteste les Juifs, se donne le plaisir ironique de faire fouetter de verges leur prétendu roi. Il croit que cela suffira à ses fanatiques. Ils n'en deviennent que plus furieux et clament avec rage « Crucifie-le ». Malgré ce déchaînement des passions populaires, Pilate résiste toujours. Il est las d'être cruel. Il a vu tant de sang couler dans sa vie, il a envoyé tant de révoltés au supplice, il a entendu tant de gémissements et de malédictions sans sortir de son indifférence. Mais la souffrance muette et stoïque du prophète galiléen, sous le manteau de pourpre et la couronne d'épines, l'a secoué d'un frisson inconnu. Dans une vision étrange et fugitive de son esprit, sans en mesurer la portée, il a lâché ce mot, « Ecce homo », voilà l'homme. Le dur romain est presque ému. Il va prononcer l'acquittement. Les prêtres du Sanhédrin, qui l'épient d'un œil aigu, ont vu cette émotion et s'en sont effrayés. Ils sentent la proie leur échapper. Astucieusement, ils se concertent entre eux. Puis, d'une seule voix, il s'écrie en avançant la main droite et en détournant la tête avec un geste d'horreur hypocrite, « Il s'est fait fils de Dieu ». Quand Pilate eut entendu ces paroles, dit Jean, il eut encore plus de crainte. Crainte de quoi ? Qu'est-ce que ce nom pouvait faire aux Romains incrédules, qui méprisaient de tout cœur les Juifs et leur religion ? Et ne croyait qu'à la religion politique de Rome et à César. Il y a une raison sérieuse à cela. Quoiqu'on lui donnât des sens différents, le nom de fils de Dieu était assez répandu dans l'ésotérisme antique. Et Pilate, quoique sceptique, avait son coin de superstition. À Rome, dans les petits mystères de Mitra, auxquels des chevaliers romains se faisaient initier, il avait entendu dire qu'un fils de Dieu était une sorte d'interprète de la divinité. À quelque nation, à quelque religion qu'il appartint, attenter à sa vie était un grand crime. Pilate ne croyait guère à ces rêveries persanes, mais le mot l'inquiétait quand même et augmentait son embarras. Ce que voyant, les Juifs, lance au proconsul l'accusation suprême. Si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Nous n'avons d'autre roi que César. Argument irrésistible. Nier Dieu est peu. Tuer n'est rien. Mais conspirer contre César est le crime des crimes. Pilate est forcé de se rendre et de prononcer la condamnation. Ainsi, au terme de sa carrière publique, Jésus se retrouve en face du maître du monde qu'il a combattu indirectement en adversaire occulte pendant toute sa vie. L'ombre de César l'envoie à la croix. Logique profonde des choses. Les Juifs l'ont livré, mais le spectre romain le tue en étendant la main. Il tue son corps, mais c'est lui, le Christ glorifié, qui, par son martyre, enlèvera à tout jamais à César l'auréole usurpée, l'apothéose divine, ce blasphème infernal du pouvoir absolu. Pilate, après s'être lavé les mains du sang de l'innocent, a prononcé ce mot terrible. Condemno ibis in crucem. Déjà, la foule impatiente se presse vers le Golgotha. Nous voici sur la hauteur dénudée et semée d'ossements humains qui domine Jérusalem et qui porte le nom de Gilgal. Golgotha, ou lieu du crâne, désert sinistre, consacré depuis des siècles à d'horribles supplices. La montagne chauve est sans arbres. Il n'y pousse que des gibets. C'est là qu'Alexandre Janet, le roi juif, avait assisté avec tout son harem à l'exécution de centaines de prisonniers. C'est là que Varus avait fait crucifier 2000 rebelles. C'est là que le doux Messie prédit par les prophètes devait subir l'affreux supplice inventé par le génie atroce des Phéniciens, adopté par la loi implacable de Rome. La cohorte des légionnaires a formé un grand cercle au sommet de la colline. Elle écarte à coups de lance les derniers fidèles qui ont suivi le condamné. Ce sont les femmes galiléennes. Muettes et désespérées, elles se jettent la face contre terre. Leur suprême est venu pour Jésus. Il faut que le défenseur des pauvres, des faibles et des opprimés achève son œuvre dans le martyre abject réservé aux esclaves et aux brigands. Il faut que le prophète consacré par les Esséniens se laisse clouer sur la croix, accepté dans la vision d'un gadi. Il faut que le Fils de Dieu boive le calice entrevu dans la transfiguration. Il faut qu'il descende jusqu'au fond de l'enfer et de l'horreur terrestre. Jésus a refusé le breuvage traditionnel préparé par les pieuses femmes de Jérusalem et destiné à étourdir les suppliciés. C'est en pleine conscience qu'il souffrira ses agonies. Pendant qu'on le lit sur l'infâme gibet, pendant que les durs soldats enfoncent à grands coups de marteau les clous dans ses pieds adorés des malheureux, dans ses mains qui ne savaient que bénir, le nuage noir d'une souffrance déchirante éteint ses yeux, étouffe sa gorge. Mais du fond de ses convulsions et de ses ténèbres infernales, la conscience du Sauveur, toujours vivante, n'a qu'une parole pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais voici le fond du calice. Les heures de l'agonie de midi jusqu'au coucher du soleil. La torture morale se surajoute et surpasse la torture physique. L'initié a abdiqué ses pouvoirs. Le Fils de Dieu va s'éclipser. Il ne reste que l'homme souffrant. Pour quelques heures, il perdra son ciel, afin de mesurer l'abîme de l'humaine souffrance. La croix se dresse lentement, avec sa victime et son écriteau, dernière ironie du proconsul. Ceci est le roi des Juifs. Maintenant, les regards du crucifié voient flotter dans un nuage angoissant Jérusalem, la ville sainte qu'il a voulu glorifier et qui lui jette l'anathème. Où sont ses disciples? Disparus. Il n'entend que les injures des membres du Sanhédrin qui jugent que le prophète n'est plus à craindre et triomphe de son agonie. « Il a sauvé les autres, disent-ils, et ne peut se sauver lui-même. » À travers ses blasphèmes, à travers cette perversité, dans une vision terrifiante de l'avenir, Jésus voit tous les crimes que d'iniques potentats, que des prêtres fanatiques vont commettre en son nom. On se servira de son signe pour maudire. On crucifiera avec sa croix. Ce n'est pas le sombre silence du ciel voilé pour lui, mais la lumière perdue pour l'humanité qui lui fait pousser ce cri de désespoir. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors la conscience du Messie, la volonté de toute sa vie, rejaillit dans un dernier éclair, et son âme s'échappe avec ce cri « Tout est accompli ». Ô sublime Nazaréen, ô divin Fils de l'homme, déjà tu n'es plus ici. D'un seul coup d'aile, sans doute, ton âme a retrouvé dans une lumière plus éclatante ton ciel d'Engadi, ton ciel du Mont Tabor. Tu as vu ton Verbe victorieux volant par-delà les siècles, et tu n'as voulu d'autre gloire que les mains et les regards levés vers toi de ceux que tu as guéris et consolés. Mais à ton dernier cri, incompris de tes gardiens, un frisson a passé sur eux. Les soldats romains se sont retournés et devant l'étrange rayon laissé par ton esprit sur la face apaisée de ce cadavre, les bourreaux, étonnés, se regardent et se disent « Serait-ce un dieu ? » Est-il vraiment accompli le drame ? Est-elle terminée la lutte formidable et silencieuse entre le divin amour et la mort qui s'est acharnée sur lui avec les puissances régnantes de la terre ? Où est le vainqueur? Sont-ce ces prêtres qui descendent du calvaire, contents d'eux-mêmes, sûrs de leur fait, puisqu'ils ont vu le prophète expirer? Ou serait-ce le pâle crucifié déjà livide? Pour ces femmes fidèles que les légionnaires romains ont laissées approcher et qui sanglotent au pied de la croix, pour les disciples consternés et réfugiés dans une grotte de la vallée de Josaphat, tout est fini. Le Messie qui devait s'asseoir sur le trône de Jérusalem a péri misérablement par le supplice infâme de la croix. Le Maître a disparu, avec lui l'espérance, l'Évangile, le royaume du ciel. Un morne silence, un profond désespoir pèse sur la petite communauté. Pierre et Jean eux-mêmes sont accablés. Il fait noir autour d'eux. Plus un rayon ne luit dans leur âme. Cependant, de même que dans les mystères d'Éleusis, une lumière éblouissante succédait aux ténèbres profondes, de même, dans les évangiles, à ce désespoir profond succède une joie subite, instantanée, prodigieuse. Elle éclate, elle fait irruption comme la lumière au lever du soleil. Et ce cri, frémissant de joie, se propage dans toute la Judée. il est ressuscité. C'est d'abord Marie-Madeleine qui, errant aux environs du tombeau, dans l'excès de sa douleur, a vu le maître et l'a reconnu à sa voix qui l'appelait par son nom, Marie. Folle de joie, elle s'est précipitée à ses pieds. Elle a vu encore Jésus la regarder, faire un geste comme pour lui défendre l'attouchement. Puis, l'apparition s'évanouit brusquement, laissant autour de Madeleine une chaude atmosphère et l'ivresse d'une présence réelle. Ce sont ensuite les saintes femmes qui ont rencontré le Seigneur et lui ont entendu dire ces mots. « Allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée et que c'est là qu'ils me verront. » Le même soir, les 11 étaient réunis et les portes fermées. Ils virent Jésus entrer. Il prit sa place au milieu d'eux, leur parla doucement, leur reprochant leur incrédulité. Puis il dit « Allez-vous-en par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature humaine. » Marc 16, 15. Chose étrange, pendant qu'ils l'écoutaient, ils étaient tous comme dans un rêve. Ils avaient complètement oublié sa mort. Ils le croyaient vivant et ils étaient persuadés que le maître ne les quitterait plus. Mais au moment où ils allaient parler eux-mêmes, ils l'avaient vu disparaître comme une lumière s'éteint. L'écho de sa voix vibrait encore à leurs oreilles. Les apôtres, éblouis, cherchèrent sa place restée vide. Une vague lueur y flottait. Soudain, elle s'effaça. Selon Matthieu et Marc, Jésus reparut peu après, sur une montagne, devant 500 frères réunis par les apôtres. Il se montra encore une fois aux 11 réunis. Puis les apparitions cessèrent. Mais la foi était créée, l'impulsion donnée, le christianisme vivait. Les apôtres, remplis du feu sacré, guérissaient les malades et prêchaient l'évangile de leur maître. 3 ans après, un jeune pharisien du nom de Saül, animé contre la nouvelle religion d'une haine violente et qui persécutait les chrétiens avec une ardeur juvénile, se rendit à Damas avec plusieurs compagnons. En route, il se vit subitement enveloppé d'un éclair si aveuglant qu'il tomba par terre. Tout tremblant, il s'écria « Qui es-tu ?» Et il entendit une voix lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Ses compagnons, aussi effrayés que lui, le relevèrent. Ils avaient entendu la voix sans rien voir. Le jeune homme, aveuglé par l'éclair, ne recouvra la vue qu'après 3 jours. Actes des Apôtres 9, 1, 9. Il se convertit à la foi du Christ et devint Paul, l'apôtre des gentils. Tout le monde s'accorde à dire que, sans cette conversion, le christianisme confiné en Judée n'eût pas conquis l'Occident. Tels sont les faits rapporté par le Nouveau Testament. Quelque effort que l'on fasse pour les réduire au minimum, et quelle que soit d'ailleurs l'idée religieuse ou philosophique qu'on y attache, il est impossible de les faire passer pour de pures légendes et de leur refuser la valeur d'un témoignage authentique, quant à l'essentiel. Depuis 18 siècles, les flots du doute et de la négation ont assailli le rocher de ce témoignage. Depuis 100 ans, la critique s'est acharnée contre lui avec tous ses engins et toutes ses armes. Elle a pu les brécher par endroits, mais non le faire bouger de place. Qu'y a-t-il derrière les visions des apôtres? Les théologiens primaires, les exégètes de la lettre et les savants agnostiques pourront se disputer là-dessus à l'infini et se battre dans l'obscurité. Ils ne se convertiront pas les uns les autres et ils raisonneront à vide, tant que la théosophie, qui est la science de l'esprit, n'aura pas élargi leur conception, et qu'une psychologie expérimentale supérieure, qui est l'art de découvrir l'âme, ne leur aura pas ouvert les yeux. Mais pour ne nous placer ici qu'au simple point de vue de l'historien consciencieux, c'est-à-dire de l'authenticité de ces faits comme faits psychiques, il y a une chose dont on ne peut douter, c'est que les apôtres aient eu ces apparitions et que leur foi en la résurrection du Christ ait été inébranlable. Si l'on rejette les récits de Jean comme ayant reçu leur rédaction définitive 100 ans environ après la mort de Jésus, et celui de Luc sur Emmaüs comme une amplification poétique, il reste les affirmations simples et positives de Marc et de Matthieu, qui sont la racine même de la tradition et de la religion chrétienne. Il reste quelque chose de plus solide et de plus indiscutable encore, le témoignage de Paul. Voulant expliquer aux Corinthiens la raison de sa foi et la base de l'évangile qu'il prêche, il énumère, par ordre, 6 apparitions successives de Jésus. Celle à Pierre, aux 11, aux 500, dont la plupart, dit-il, sont encore vivants, à Jacques, aux apôtres réunis, et finalement sa propre vision sur le chemin du Damas. Corinthiens 15, 1, 9. Or, ces faits furent communiqués à Paul par Pierre lui-même et par Jacques, 3 ans après la mort de Jésus, peu après la conversion de Paul, lors de son premier voyage à Jérusalem. Il les tenait donc de témoins oculaires. Enfin, de toutes ces visions, la plus incontestable n'est pas la moins extraordinaire. J'entends celle de Paul lui-même. Dans ses épîtres, il y revient sans cesse, comme à la source de sa foi. Étant donné l'état psychologique précédent de Paul et la nature de sa vision, elle vient du dehors et non du dedans. Elle est d'un caractère inattendu et foudroyant. Elle change son être de fond en comble. Comme un baptême de feu, elle le trempe de pied en cap, le revêt d'une armure infrangible et en fait à la face du monde le chevalier invincible du Christ. Ainsi, le témoignage de Paul a une double force en ce qu'il affirme sa propre vision et corrobore celle des autres. Si l'on voulait douter de la sincérité de pareilles affirmations, il faudrait rejeter en masse tous les témoignages historiques et renoncer à écrire l'histoire. Ajoutez que, s'il n'y a pas d'histoire critique sans un pesage exact et un triage raisonné de tous les documents, il n'y a pas d'histoire philosophique si l'on ne conclut pas de la grandeur des effets à la grandeur des causes. On peut, avec Sels, Strauss et M. Renan, n'accorder aucune valeur objective à la résurrection et la considérer comme un phénomène de pure hallucination. Mais en ce cas, on est forcé de fonder la plus grande révolution religieuse de l'humanité sur une aberration des sens et sur une chimère de l'esprit. Or, qu'on ne s'y trompe pas, la foi en la résurrection est la base du christianisme historique. Sans cette confirmation de la doctrine de Jésus par un fait éclatant, sa religion n'eût pas même commencé. Ce fait a opéré une révolution totale dans l'âme des apôtres. De judaïque qu'elle était, leur conscience en devint chrétienne. Pour eux, le Christ glorieux est vivant, il leur a parlé, le ciel s'est ouvert, l'au-delà est entré dans l'en-deçà, l'aurore de l'immortalité a touché leur front et embrasé leurs âmes d'un feu qui ne peut plus s'éteindre. Au-dessus du royaume terrestre d'Israël qui s'écroule, ils ont entrevu dans toute sa splendeur le royaume céleste et universel. De là leur élan à la lutte, leur joie au martyre. De la résurrection de Jésus part cette impulsion prodigieuse, cette immense espérance qui porte l'Évangile à tous les peuples et va battre de ses flots les derniers rivages de la terre. Pour que le christianisme réussisse, il fallait deux choses, comme le dit Fabre d'Olivet. Que Jésus voulut mourir et qu'il eut la force de ressusciter. Pour concevoir du fait de la résurrection une idée rationnelle, pour comprendre aussi sa portée religieuse et philosophique, il faut ne s'attacher qu'au phénomène des apparitions successives et écarter dès l'abord l'absurde idée de la résurrection du corps, une des plus grandes pierres d'achoppement du dogme chrétien, qui, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, est restée absolument primaire et enfantin. La disparition du corps de Jésus peut s'expliquer par des causes naturelles, et il est à noter que les corps de plusieurs grands adeptes ont disparu sans trace et d'une manière tout aussi mystérieuse, entre autres ceux de Moïse, de Pythagore et d'Apollonios de Tyane, sans qu'on ait jamais pu savoir ce qu'ils étaient devenus. Il se peut que les frères, connus ou inconnus, qui veillaient sur eux, aient détruit par le feu la dépouille de leur maître pour la soustraire à la profanation des ennemis. Quoi qu'il en soit, l'aspect scientifique et la grandeur spirituelle de la résurrection n'apparaissent que si on la comprend dans le sens ésotérique. Chez les Égyptiens comme chez les Persans de la religion mazdéenne de Zoroastre, avant comme après Jésus, en Israël comme chez les chrétiens des deux premiers siècles, la résurrection a été comprise de deux manières. L'une matérielle et absurde, l'autre spirituelle et théosophique. La première est l'idée populaire finalement adoptée par l'Église après la répression du gnosticisme. La seconde est l'idée profonde des initiés. Dans le premier sens, la résurrection signifie la rentrée en vie du corps matériel. En un mot, la reconstitution du cadavre décomposé ou dispersé qu'on se figurait comme devant advenir à l'avènement du Messie ou au jugement dernier. Il est inutile de faire ressortir le matérialisme grossier et l'absurdité de cette conception. Pour l'initié, la résurrection avait un sens très différent. Elle se rattachait à la doctrine de la constitution ternaire de l'homme. Elle signifiait la purification et la régénération du corps sidéral, éthéré et fluidique, qui est l'organisme même de l'âme et en quelque sorte la capsule de l'esprit. Cette purification peut avoir lieu dès cette vie par le travail intérieur de l'âme et un certain mode d'existence. Mais elle ne s'accomplit pour la plupart des hommes qu'après la mort, et pour ceux-là seulement, qui, d'une manière ou d'une autre, ont aspiré au juste et au vrai. Dans l'autre monde, l'hypocrisie est impossible. Là, les âmes apparaissent ce qu'elles sont en réalité. Elles se manifestent fatalement sous la forme et la couleur de leur essence, ténébreuses et hideuses si elles sont mauvaises, rayonnantes et belles si elles sont bonnes. Telle est la doctrine exposée par Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit formellement « Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. » Corinthiens 15, 39-46. Jésus l'annonce symboliquement, mais avec plus de profondeur, pour qui sait lire entre les lignes, dans l'entretien secret pour Nicodème. Or, plus une âme est spiritualisée, plus grand sera son éloignement pour l'atmosphère terrestre, plus lointaine la région cosmique qui l'attire par sa loi d'affinité, plus difficile sa manifestation aux hommes. Aussi, les âmes supérieures ne se manifestent-elles guère à l'homme que dans l'état de sommeil profond ou d'extase. Alors les yeux physiques étant fermés, l'âme, à demi dégagée du corps, quelquefois, voit des âmes. Il arrive cependant qu'un très grand prophète, un véritable fils de Dieu, se manifeste aux siens d'une manière sensible et à l'état de veille, afin de les mieux persuader en frappant leur sens et leur imagination. En pareil cas, l'âme désincarnée parvient à donner momentanément à son corps spirituel une apparence visible, quelquefois même tangible, au moyen du dynamisme particulier que l'esprit exerce sur la matière par l'intermédiaire des forces électriques de l'atmosphère et des forces magnétiques du corps vivant. C'est ce qui advint selon toute apparence pour Jésus. Les apparitions rapportées par le Nouveau Testament rentrent alternativement dans l'une et dans l'autre de ces deux catégories, vision spirituelle et apparition sensible. Il est certain qu'elles eurent pour les apôtres le caractère d'une réalité suprême. Ils auraient plutôt douté de l'existence du ciel et de la terre que de leur communion vivante avec le Christ ressuscité. Car ces visions émouvantes du Seigneur étaient ce qu'il y avait de plus radieux dans leur vie, de plus profond dans leur conscience. Il n'y a pas de surnaturel, mais il y a inconnu de la nature, sa continuation occulte dans l'infini et la phosphorescence de l'invisible aux confins du visible. Dans notre état corporel présent, nous avons peine à croire et même à concevoir la réalité de l'impalpable. Dans l'état spirituel, c'est la matière qui nous paraîtra l'irréel et le non-existant. Mais la synthèse de l'âme et de la matière, ces deux faces de la substance une, se trouvent dans l'esprit. Car si l'on remonte aux principes éternels, aux causes finales, ce sont les lois innées de l'intelligence qui expliquent le dynamisme de la nature. Et c'est l'étude de l'âme, par la psychologie expérimentale, qui explique les lois de la vie. La résurrection comprise dans le sens ésotérique, tel que je viens de l'indiquer, était donc à la fois la conclusion nécessaire de la vie de Jésus et la préface indispensable à l'évolution historique du christianisme. Conclusion nécessaire, car Jésus l'avait annoncé maintes fois à ses disciples. S'il eut le pouvoir de leur apparaître après sa mort, avec cette splendeur triomphante, ce fut grâce à la pureté, à la force innée de son âme, centuplée par la grandeur de l'effort et l'œuvre accomplie. Vu du dehors et au point de vue terrestre, le drame messianique finit sur la croix. Sublime en soi, il lui manque cependant l'accomplissement de la promesse. Vu du dedans, du fond de la conscience de Jésus et au point de vue céleste, il y a trois actes, dont la tentation, la transfiguration et la résurrection marquent les sommets. Ces trois phases représentent, en d'autres termes, l'initiation du Christ, la révélation totale et le couronnement de l'œuvre. Elles correspondent assez bien à ce que les apôtres et les chrétiens initiés du premier siècle nommèrent les mystères du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Couronnement nécessaire, disais-je, de la vie du Christ et préface indispensable de l'évolution historique du christianisme. Le navire construit sur la plage avait besoin d'être lancé à l'océan. La résurrection fut en outre une porte de lumière ouverte sur toute la réserve ésotérique de Jésus. Ne nous étonnons pas que les premiers chrétiens aient été comme éblouis et aveuglés de sa fulgurante irruption, qu'ils aient souvent entendu l'enseignement du Maître à la lettre et se soient mépris sur le sens de ses paroles. Mais aujourd'hui, que l'esprit humain a fait le tour des âges, des religions et des sciences, nous devinons ce qu'est un saint Paul, un saint Jean, ce que Jésus lui-même entendait par les mystères du Père et de l'Esprit. Nous voyons qu'il renfermait ce que la science psychique et l'intuition théosophique de l'Orient avaient connu de plus haut et de plus vrai. Nous voyons aussi la puissance d'expansion nouvelle que le Christ a donnée à l'antique, à l'éternelle vérité, par la grandeur de son amour, par l'énergie de sa volonté. Nous apercevons enfin le côté à la fois métaphysique et pratique du christianisme qui fait sa puissance et sa vitalité. Les vieux théosophes de l'Asie ont connu les vérités transcendantes. Les brahmanes ont même trouvé la clé de la vie antérieure et future en formulant la loi organique de la réincarnation et de l'alternance des vies. Mais à force de se plonger dans l'au-delà et dans la contemplation de l'éternité, ils ont oublié la réalisation terrestre, la vie individuelle et sociale. La Grèce, primitivement initiés aux mêmes vérités sous des formes voilées et plus anthropomorphiques, s'attacha par son génie propre à la vie naturelle et terrestre. Cela lui permit de révéler, par l'exemple, les lois immortelles du beau et de formuler les principes des sciences d'observation. Mais par ce point de vue, sa conception de l'au-delà se rétrécit et s'obscurcit graduellement. Jésus, par sa largeur et son universalité, embrasse les deux côtés de la vie. Dans la prière dominicale qui résume son enseignement, il dit « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». Or, le règne divin sur la terre signifie l'accomplissement de la loi morale et sociale dans toute la richesse, dans toute la splendeur du beau, du bien et du vrai. Aussi, la magie de sa doctrine, sa puissance de développement, en quelque sorte illimitée, réside-t-elle dans l'unité de sa morale et de sa métaphysique, dans sa foi ardente en la vie éternelle et dans son besoin de la commencer dès ici-bas par l'action, par la charité active. Le Christ dit à l'âme accablée de tous les poids de la terre « Relève-toi, car ta patrie est au ciel, mais pour y croire et pour y parvenir, prouve-le dès ici-bas par ton œuvre et par ton amour. »